C'est officiel, depuis mardi 18h, la première keynote de la rentrée aura bien lieu mardi prochain, 14 septembre. Rendez-vous dès 18h30 sur iWeek.news pour la suivre avec nous à partir de 19h heure française. Dans quelques instants, toutes les infos, tout ce qu'on sait sur les nouveautés qui vont être dévoilées, les dernières rumeurs, les surprises possibles et deux certitudes qu'Eli partagera avec nous, je cite, en exclusivité mondiale. Il avait lancé le Model 3 chez Tesla, il avait rejoint Apple où il dirigeait le projet Titan, autrement dit l'Apple Car, avec le titre de vice-président. Mais voilà, Doug Field jette l'éponge, débauché par Ford, un revers énorme pour Apple, à tel point qu'on se demande sérieusement si le projet de voiture n'est pas enterré à Cupertino. Le tuto audio, la réalité augmentée, vous n'avez peut-être jamais testé, et pourtant, il suffit de l'iPhone ou de l'iPad que vous avez entre les mains pour en faire la première expérience. Je vais vous expliquer comment découvrir l'œuf de Pâques, le logo Apple en réalité augmentée qui se cache dans l'invitation pour la keynote de mardi, une pomme qui va apparaître dans votre salon en 3D et dans laquelle vous allez même pouvoir entrer. Dans 5 jours, nous vivrons donc ensemble la première keynote de la rentrée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. C'est le 55e numéro d'iWeek La Semaine Apple, le 3e épisode de la saison 2. Et c'est un vrai bonheur de vous retrouver comme tous les jeudis avant 20h pour ce qui devient chaque semaine le podcast de référence de l'actualité Apple et de son écosystème. Benjamin Vincent avec vous et pas que, nous sommes 4 aujourd'hui autour de notre table virtuelle. Je vous présente ou représente mes complices. Salut à tous les trois et je commence par toi, Gilles Dounès, e-éditorialiste sur Macplus.net. Salut Gilles.
Salut Benjamin, bonjour toute l'équipe.
Bon, dans les starting blocks pour mardi?
Oui, le pied sur l'embrayage et l'autre sur l'accélérateur. J'espère que je ne vais pas caler au démarrage, c'est tout.
Oui, t'as fait le plein au moins.
Oui, la première est engagée.
D'accord. Bon, François Le Treuilic, enseignant à Vannes et gérant d'un parc informatique d'iMac M1 24 pouces flambant neuf. Salut François, comment ça va?
Salut Benjamin, salut Élie, salut Gilles. Ça va ma foi, comme tu l'as dit, j'ai reçu 31 postes, 31 beaux iMac. Les 6 derniers manquants sont arrivés jeudi et ils devaient être prêts pour vendredi, donc ça a été un peu speed, mais mes 76 postes étaient prêts pour la rentrée officielle dans les salles informatiques pour lundi. Et à première vue, je touche de la peau de singe, pour l'instant tout tourne bien. Donc maintenant j'ai attaqué mes Mac Mini.
Et j'ai adoré la photo des cartons de tes iMac dans l'ascenseur.
Oui, on s'amuse de temps en temps. Disons que ça m'a évité de les monter à la mano, quoi. Mais bon, Apple, l'écologie c'est bien, mais il y a les surcartons marron aussi qui a des fers. Et du coup, quand on en reçoit 31, je vous raconte pas la galère à déballer.
Bon, comment tu te sens à 5 jours de la keynote?
Je crois comme nous tous, assez excité. J'espère qu'on aura des belles surprises. Plus que, voilà, au-delà de ce qu'on attend et qui est quasiment acté, on va dire, c'est vrai qu'il y a encore des petits bruits qui circulent. Donc on verra, mais on va avoir l'occasion d'y revenir en détail aujourd'hui.
Ah, bien sûr, on va en reparler dans quelques instants. Et bien sûr, Élie Abitbol. Salut Élie.
Hello Benjamin, bonsoir la team et bonsoir à tous.
Je rappelle que tu es président des 54 APR de France, les Apple Premium Resellers, 54 magasins indépendants d'Apple, même si vous êtes forcément très liés. Et tu es le cofondateur du groupe MCS avec des magasins à Nice, à Cannes et à Aix-en-Provence. J'ai tout bon, ça n'a pas changé?
Absolument, on reste dans notre sud-est qu'on aime bien.
Bon, ça y est Élie, pour toi aussi le compte à rebours est lancé?
Oui, il était temps, hein, mais vous avez vu qu'une fois de plus, nos dates étaient justes. Même si nous avions le choix, comme nous a dit et répété François.
Dans la date, évidemment. Vous connaissez bien le programme. Sûr. Vous connaissez le programme du jour. On va aussi reparler Apple Car, notamment avec toi, Élie, avec le départ donc de Doug Field. Tu nous diras ce que tu en penses, parce que c'est peut-être la conséquence d'une décision au plus haut niveau chez Apple, qui aura peut-être rendu son job inutile. En tout cas, dans tous les cas, c'est pas une bonne nouvelle. Hein.
Peut-être que oui, peut-être que non. Parce qu'il y a des départs et il y a des arrivées. Donc du coup, alors que personne maintenant n'y croit, moi j'y crois. Donc ça y est, moi je... Bah oui, c'est dingue.
L'esprit de contradiction.
Voilà, tu vas nous raconter, tu vas nous expliquer.
Exactement.
Bon, on te retrouvera aussi pour ton dîner. Et le tuto audio vous expliquera comment faire apparaître le logo Apple de la keynote dans votre salon en réalité augmentée. C'est hyper simple, il suffit d'un iPhone ou d'un iPad et c'est très impressionnant et vous aurez même la musique. Vous aimez iWeek, la semaine Apple, vous voulez nous aider non seulement à payer les frais mais aussi à voir plus grand. Allez donc sur patreon.com/iWeek et vous pourrez contribuer, nous soutenir à partir d'€1,50 par épisode. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais ça change tout pour nous et on a vraiment besoin de vous. Abonnez-vous aussi à iWeek, la semaine Apple, c'est gratuit sur toutes les plateformes de podcast. Sur Apple Podcast, profitez-en pour nous mettre une note 5 étoiles et pour rédiger un avis. Soignez-le, hein, parce qu'il restera pour l'éternité. Sérieusement, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs, alors d'avance, merci beaucoup pour le temps que vous prendrez. Enfin, si iWeek, la semaine Apple, le jeudi ne vous suffit pas, i5, une dose Apple par jour est de retour depuis lundi. Un épisode par jour, du lundi au vendredi, avant midi, 5 minutes par jour, bon, parfois un tout petit peu plus, à deux voix, avec l'essentiel de l'actu Apple, plus de 20 épisodes par mois pour seulement 3,99€ par mois. Profitez-en, i5 est en libre accès toute la semaine, et donc abonnez-vous. On peut que vous le conseiller, notamment à partir de la semaine prochaine. Ça va être chargé et vous avez compris dans quelle direction je regarde. Voilà, tout est clair. Dans un instant, on va jouer au papa et aux mamans. La keynote du 14 septembre, le premier Apple Event de la rentrée, est donc officielle depuis 48 heures, mardi, 19h heure française, streaming depuis l'Apple Park sous ce slogan « California Streaming ». On va en reparler, et iWeek Live en direct intégral et en vidéo dès 18h30 ce mardi 14 sur iWeek.news avec toute la team iWeek i5. Alors avant de rêver de ce dont on n'est pas sûr du tout, je vous propose les amis qu'on commence par poser ce qui semble plus ou moins acquis et plutôt plus que moins de la vie générale et donc ce que l'on sait. Alors d'abord à propos de la keynote elle-même, vraiment les infos de base. Le quand, c'est donc très clair. Ellie, c'est mardi prochain.
C'est mardi prochain, c'est officiel, c'est écrit.
Voilà. Dès 18h30 avec nous pour le streaming d'iWeek Live et la keynote commencera à 19h heure française. Qui va être l'animateur de cet événement en direct, en diffusion en direct en tout cas?
Ben, comme a dit fort justement François, dans i5, pour ceux qui l'ont écouté, il y aura beaucoup de diversité, c'est-à-dire que vous verrez bien sûr Tim Cook, vous verrez bien sûr notre ami Air Force One, que nous adorons, vous verrez Greg Joswiak, mais vous verrez aussi plein de product managers, et donc il y aura beaucoup de femmes. Il y aura toutes les diversités, il y aura des hispaniques, il y aura des blacks, donc tout le monde sera représentant et même fortement représenté.
Gilles ?
Oui, attention, c'est la diversité, ce n'est pas une posture chez Apple et pour Tim Cook. On va en reparler tout à l'heure.
Ah non, bien sûr.
Mais c'est un truc important.
Mais on va dire qu'ils ont, ils auraient plutôt tendance à forcer le trait en ce moment.
Oui.
Non, ça a toujours été comme ça aussi.
On va voir.
Non, là, il y a beaucoup plus de femmes qu'avant, hein, je trouve, et beaucoup plus de minorités qu'avant. Hein. Mais c'est très bien, hein, c'est pas une critique.
Rappelez-vous dans Star Wars aussi.
Oui, mais Tim Cook n'est pas le patron de Lucasfilm.
Pas encore.
Non, mais il sent venir le... Il y a un air du temps et Apple est très fort là-dessus.
En tout cas, Apple va montrer que l'entreprise est faite de femmes et d'hommes de toutes origines, de toutes confessions sans doute, et de multiples talents. Ce ne sera pas un monologue de Tim Cook, très certainement. Le lieu, on ne revient pas, en tout cas pas encore, aux keynotes qu'on a connues dans le passé, les keynotes en public, sur scène, avec des milliers de fans dans la salle.
Ce sera en direct de l'Apple Park avec un joli produit filmé depuis quelques jours, semaines peut-être. Et puis comme d'habitude, je pense qu'on aura le droit à des petites mises en situation. Ils auront bien refilé l'iPhone 13 Pro Max à un photographe pour montrer à quel point l'astrophoto c'est super, etc. À mon avis, on aura quelques petites pastilles comme ça. Mais l'essentiel de la keynote se passera dans l'Apple Park.
Quand tu dis en direct, François, ça peut presque induire en erreur parce qu'il n'y a pas de direct. C'est juste la diffusion qui a lieu en direct, c'est-à-dire que c'est un film produit depuis des semaines sans doute par Apple qui va être streamé en direct, mais Tim Cook sera probablement dans son bureau ou chez lui en train de regarder. Il sera pas au même moment en train de
il
parler.
Il sera en train de faire
entier.
Son sport, non ?
Non, il est en train de regarder les statistiques de diffusion.
Peut-être.
Ou peut-être en train de regarder iWeek pour apprendre tous nos commentaires.
Hein. Oui, je crois qu'il
je pense.
Il veut aussi faire des progrès en français, paraît-il, donc ça tombe bien. Bon, on avait hésité, pour être tout à fait honnête, entre deux dates, le 7 et le 14. Ellie, est-ce que tu as une idée de la raison qui fait que cette keynote a finalement lieu le 14 et pas le 7 ?
Bah, je pense que ça permet de donner une petite indication du week-end de lancement, puisqu'après c'est la clôture de l'année fiscale Apple, et ils préfèrent, même s'ils ne donnent plus les chiffres, démarrer sur un week-end, et puis ensuite on démarre une année qui va démarrer en douceur s'il y a des problèmes d'approvisionnement, etc., et qui va évidemment monter progressivement pendant octobre et novembre pour arriver à une apothéose avant Noël, après le Black Friday. Donc, s'il y a des pénuries de composants, s'il y a des petits problèmes sur l'Apple Watch 7 au niveau des quantités, etc., c'est pas mal de démarrer en disant « voilà nos produits ». Voilà le week-end de lancement, vous pouvez en acheter, évidemment il n'y en aura pas pour tout le monde. Et puis après, c'est une nouvelle année qui commence pour Apple, hein, donc les chiffres vont démarrer en douceur plutôt que de faire une sorte de 15 jours de vente où on pourrait juger, les commentateurs iraient juger, on dirait « ouais c'est la pénurie, nanana ». Bon, c'est une façon de gérer ça, mais j'ai regardé toutes les dates d'annonce et toutes les dates étaient à peu près vers mi-septembre. Presque rarement début septembre, mais... Donc voilà, c'est alors, juste pour ça.
Alors sur les dates, moi j'ai deux questions à vous poser et j'ai deux experts différents. Alors je me tourne d'abord vers Gilles. Ellie vient d'évoquer le début de l'année, la fin de l'année pour Apple. Est-ce que tu peux nous rappeler fiscalement quelle est l'année Apple ? Elle commence quand ? Elle se termine quand ?
Le premier trimestre fiscal correspond au dernier de l'année. Il y a un trimestre de décalage entre l'année fiscale et l'année calendaire chez Apple.
Oui.
Donc ça veut dire qu'Apple termine en ce moment son quatrième trimestre 2021.
C'est ça.
C'est ça.
L'année fiscale 2022 commence à quelle date là pour Apple ?
1er octobre. En fait, si vous voulez, la prochaine fois, parce que là je ne l'ai pas pris avec moi, je vous montrerai le calendrier, parce qu'il existe un calendrier fiscal Apple, qui montre chaque trimestre comment c'est fini à une date précise parce qu'ils tiennent compte de la clôture des comptes, le temps qu'il leur faut pour générer leurs chiffres et leurs stats, etc. Par exemple, l'année fiscale Apple ne termine pas le 30 septembre, comme on aurait pu le croire. Non, elle termine plutôt vers le 24-26 parce qu'il leur faut quelques jours pour comptabiliser tout ça. Et c'est pareil trimestre par trimestre. Et nous, d'ailleurs, on peut en parler d'autant plus librement que nous avons nous-mêmes calqué notre exercice fiscal sur celui d'Apple parce que ça nous permet, quand eux lancent des promos, on sait qu'on démarre l'année très fortement en Q1, donc octobre à décembre, et ça donne déjà une grosse tendance pour l'année. Et on finit par le trimestre un peu le plus faible, puisqu'il y a tout l'été qui est là, même si ça a tendance un tout petit peu à s'équilibrer, et ça permet de faire les derniers ajustements. Mais le petit boost de l'iPhone est toujours le bienvenu pour bien finir l'année.
Ouais. Alors justement, fiscal. C'est ma deuxième question, et elle est pour toi Ellie. Rappelle-nous le calendrier prévisible de l'iPhone avec une keynote le 14.
Alors oui, et c'est tout à fait maintenant officiel, hein, puisqu'on a eu l'information Apple. Donc keynote le 24, précommande de la part des clients, c'est-à-dire que nous n'avons absolument pas le droit de prendre une commande avant le vendredi 17, keynote le 14 absolument, donc prise de commande client à partir du 17, livraison des produits pour les heureux élus qui les auront commandés à temps, le vendredi 24. Ça a toujours été comme ça, vraiment toujours comme ça.
Ça veut dire, si l'année se termine vers le 24-25...
26 normalement.
Que les chiffres, ils vont se faire entre le 17, début des commandes, et le 26, c'est ça?
Alors en fait, le 17, ils pourront estimer le volume des précommandes pendant une semaine, mais les chiffres de vente, c'est-à-dire les précommandes, mais après, ce qu'on sera capable de livrer, ce qu'eux seront capables de livrer aussi, se joue sur un week-end. Donc c'est vraiment le week-end de lancement. C'est un peu comme les films. Donc c'est du vendredi, nous ça nous laisse, pour ceux qui ne sont pas ouverts le samedi et le dimanche, ça nous laisse une journée, c'est la journée de lancement. Après, ceux qui sont ouverts le samedi, bah, c'est juste un week-end, et ceux qui sont ouverts le week-end, le dimanche, bah, ça fait 3 jours de vente.
Donc la date ne doit rien au hasard en fait, hein.
Non, c'est vraiment calculé, il y a ces 10 jours et on n'arrive pas à les décaler. Ces 10 jours sont vraiment incompressibles pour Apple.
Gilles ?
Parce que n'oubliez pas qu'une fois qu'on a la keynote, le lendemain on reçoit par exemple, et c'est pareil pour tous les revendeurs dans le monde, les listes de prix avec les références. Et je vous rappelle qu'il y a évidemment toutes les références des produits, mais il y a toutes les coques. En cuir, en silicone, les accessoires, on va en parler parce qu'il y a des nouveaux accessoires, des choses comme ça. Donc ça nous fait généralement entre 300 et 400 références qu'il faut qu'on crée avant de pouvoir passer les commandes chez les grossistes, qui eux-mêmes doivent les créer en même temps que nous parce qu'ils reçoivent les tarifs en même temps. Des fois, on les crée nous avant eux. On essaie de passer la commande, ils disent « Ah non, les produits ne sont pas encore dans notre système. » Bon, donc c'est un peu cauchemar. Ça nous laisse 3 jours pour faire ça à toute vitesse. Le vendredi, on passe nos commandes, nous. Nos clients commencent à nous passer des commandes. Donc, on va être amené pendant la semaine à ajuster si on voit qu'il y a un modèle ou une couleur qui est plus précommandé que d'autres, même si on en commande vraiment beaucoup de tout. Mais on a cette semaine pour réajuster avec les grossistes qui, eux, doivent nous livrer. Pas trop tôt pour qu'il n'y ait pas de prévente. Certains, on a vu dans le passé, ont vendu avant la date. On a un embargo total avant le vendredi ouverture du magasin. On ne peut absolument pas vendre un produit, donc avant le 24. Et on ne peut même pas les mettre en magasin avant le jeudi après la fermeture du magasin. C'est, tout ça est très strict. On ne peut même pas activer les produits parce qu'ils ont des serveurs. Si on active un produit la veille ou l'avant-veille, le ciel nous tombe sur la tête, hein, c'est vraiment ça.
François, tu avais une autre explication, enfin complémentaire en tout cas, au choix de cette date du 14. Peut-être plus concrète, tout simplement. C'est
que... Bon, je pense que la raison principale, c'est que ça doit être prêt pour cette période-là aussi, quoi. Si, à mon avis, s'ils avaient pu le présenter une semaine avant, ils l'auraient fait. C'est vrai qu'on a beaucoup hésité entre le 7 et le 14 pour la présentation, la keynote de présentation. Maintenant, voilà, le 14, ça correspond plutôt à ce qui se fait d'habitude. Maintenant, je rejoins ce qu'on a évoqué tout à l'heure. À mon avis, ce sera une disponibilité en très petite quantité. On le dit, on le rabâche, hein, avec la pénurie des semi-conducteurs, ça complique fortement, fortement la tâche pour tous les constructeurs dans tous les domaines qui ont besoin de ce type de matériel.
Je voulais compléter ce que disait Élie. Il n'y a pas grand-chose qui tient du hasard et de l'improvisation, même chez Apple. Ils ont des statistiques, des moniteurs sur ce qui va se passer en fonction des premières heures et des précommandes. Ne serait-ce que pour adapter ensuite les canaux de fabrication pour les couleurs et les modèles et les tailles d'écran. Voilà, je suis de l'avis d'Elie, c'est calé. Et ce calage au niveau des dates fait partie du monitoring du point de vue statistique qu'ils ont par rapport à toute la rampe de lancement.
Il y a un dernier point qui est très important, qui est la logistique. C'est-à-dire qu'Apple doit positionner aux quatre coins du monde à peu près 90 millions d'iPhones. Donc, qui doivent partir des usines par différents canaux. Je ne pense pas qu'on aura 90 dès le lancement, mais quand même quelques millions pour le lancement. Et ça veut dire que tous ces iPhones-là, ils ont dû recevoir une Golden Master d'iOS 15. Je vous rappelle qu'on était en bêta 9. Ces jours-ci. Donc, même s'il y a une release candidate, une fois que cette Golden Master est faite, ils l'envoient aux usines qui doivent l'injecter dans les produits, qui sont ensuite fermés, packagés, mis dans des avions. C'est-à-dire que ça prend du temps, hein. Ces iPhones, il faut bien qu'ils démarrent, hein. Et ça, c'est une logistique de dingue.
Il y aurait peut-être moins d'iPhones qu'Apple l'aurait souhaité, mais il y en aura quand même davantage que ce dont pourront disposer les concurrents d'Apple pour leur propre modèle. Quand on est Apple, on passe devant tout le monde et on achète les composants d'abord, parce qu'on les achète d'avance, justement du fait de cette capacité à anticiper. Et on les achète aussi au prix, on négocie au mieux quoi, le prix des composants.
Bon, voilà pour le cadre général, les questions de base essentielles sur ce rendez-vous de mardi dès 18h30 à suivre avec nous sur iWeek.news. Maintenant, je voudrais qu'on passe à l'invitation. Cette image, ce visuel qui est parti dans le monde entier mardi à 18h heure française. D'abord, est-ce que l'un de vous peut le décrire pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu ?
En fait, c'est une image qui est assez simple au départ, mais qui est très complexe une fois qu'on passe en AR, avec un California Streaming, avec un peu des couleurs néon, et une photo qui est une baie dans des tons mauves, un peu au crépuscule. Donc c'est assez soft hein, comme invitation. Il n'y a pas les méandres qu'on avait dans la précédente. Vous voyez, ça reste avec une pomme Apple qui est là discrètement. Mais qui va se révéler plein de surprises. Donc c'est une invitation simple et complexe à la fois.
Ouais. François, est-ce que tu peux préciser ?
C'est une baie paysage, hein. C'est pas une baie informatique.
Ouais, oui, oui. On est plutôt effectivement à la tombée de la nuit, hein. Il fait très sombre. C'est sans doute pas un hasard. On va en reparler.
C'est un crépuscule, on va dire.
Ouais.
Si c'était de la photo de nuit, on aurait les étoiles.
Oui.
Ouais, alors on va en reparler justement. Ce logo Apple, François, il est stylisé, il est encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu l'invitation.
En fait, c'est marrant parce qu'il y a une sorte d'ombre, une lueur externe. Allez, c'est peut-être le terme qui serait le plus juste.
Qui avait disparu un peu partout.
Et du coup, ça lui donne une texture, un relief particulier. Alors, je sais pas, peut-être qu'on aura le droit à des néons sur les côtés de l'iPhone. Hein, sait-on jamais pour éclairer son iPhone.
Je crois pas.
Non, mais c'est presque l'effet halo, hein.
Oui,
oui.
Alors, cette invitation, donc voilà, ce paysage, ce logo Apple lumineux, avec cette lumière qui se reflète sur la surface de l'eau, ce titre, qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément ? Alors, on a effectivement l'invitation en réalité augmentée, donc je vous expliquerai dans le tuto comment la découvrir tout à l'heure, mais il y a un élément qui apparaît nettement plus dans la version en réalité augmentée, c'est le ciel. Et les étoiles.
C'est l'étoile de Steve Jobs, non, c'est ça.
ou des possibilités futures des iPhone 13, hein, pour les étoiles. Des fois, c'est pas innocent. Hein.
Explique-moi le rapport entre les étoiles et l'iPhone 13.
Parce que, d'après les rumeurs, l'amélioration, une des principales améliorations des appareils photo, c'est la possibilité de prendre des photos de nuit des étoiles. Et il semblerait qu'il y aura une démonstration particulière justement lors de la keynote pour montrer les qualités de l'iPhone pour photographier des étoiles. D'où le pourquoi, si l'invitation en parle, c'est que c'est vraiment une des choses qu'ils vont mettre en valeur dans la présentation.
C'est le mode astrophotographique, c'est ça, Gilles ?
Oui, c'est ça.
Qui détecte la présence de la Lune ou des étoiles et qui bascule dans un mode où le capteur est en mesure justement de restituer ces détails dans le ciel ?
C'est ça, une sorte de priorité haute lumière. Et du coup, on n'essaie pas de forcer le capteur à illuminer les lumières basses. Ça ne sert à rien, puisqu'il n'y aura rien dedans. Par contre, on accentue les hautes lumières, comme la Lune ou les étoiles.
Ouais. Alors, est-ce que vous avez fait l'essai de demander à Siri ce qu'Apple va annoncer lors de la keynote de mardi?
Non.
Non, vous ne l'avez pas fait. Alors,
on oublie à chaque fois, mais est-ce que toi tu l'as fait?
Bah oui, je l'ai fait. Je l'ai fait.
Ah.
Et la dernière fois, ça n'a pas marché pour moi.
Siri répond, tout vient à point, à qui sait attendre, il va vous falloir patienter. Alors en, en français, ça sonne un peu creux, mais en anglais, ça donne « You can't hurry news, you just have to wait ». Est-ce que ces paroles vous rappellent des souvenirs ? On va d'abord écouter le morceau original des Supremes avec ces paroles. Mama said, hey, hurry, love, you just have to wait. Gilles, je crois que tu as une hypothèse sur le choix des musiques. Donc, d'un côté, cette chanson des Supremes, révélée par Siri quand on lui pose la question, indirectement, puisqu'il faut faire le lien tout seul. Et puis, California Streaming, qui est un clin d'œil à California Dreaming, qui est la chanson des Mamas et des Papas. Tu t'en souviens, Gilles?
Oui, tout à fait.
Tu peux nous la chanter pour qu'on ait, on ait en tête?
All the leaves of brown,
are brown.
And the sky,
and
is,
the sky is gray.
California
I've
dreaming.
I've been for a walk on a winter's day.
Exactement.
C'était Laurent Voulzy qui l'avait repris dans Rock Collection, non?
C'est ça.
Oui, absolument.
Oui. Mais je Rock Voisine aussi.
Je connais celle-là.
Rock Voisine l'a repris.
On va écouter un bout de la version originale quand même. C'est pas pour vous faire. Pas vous manquer de respect, mais la version originale.
Non,
ouais. Quelques secondes pour l'avoir en tête.
Pour ceux qui ont aimé cette version-là, je ne peux que vous conseiller deux autres versions exceptionnelles. D'abord, l'interprétation de Diana Krall de California Dreaming, qui est juste incroyable. Des frissons dans le dos en écoutant cette interprétation de Diana Krall. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming. Such a winter's day. Et puis il y a une interprétation un peu plus latino, on va dire, de José Feliciano. Pour ceux qui s'en rappellent, il a fait une interprétation qui est passée dans les annales de la musique de California Dreaming. Donc je vous conseille de les écouter. Vous en aurez trois et vous nous raconterez peut-être sur Twitter quelle est votre version préférée. All the leaves are brown
and the sky is gray. Bon, maintenant qu'on a ces versions en tête, Gilles, je me tourne vers toi. Est-ce que tu as une hypothèse sur le sens qu'on peut donner à ces choix de musique?
Oui, alors dans California Dreaming, il est beaucoup question du temps qu'il fait et de météo, donc je ne pense pas qu'il s'agisse de l'appli météo par Apple dont il a été un temps question dans les rumeurs. À mon avis, les indices, c'est lié, les deux chansons sont liées. On a les Mamas and the Papas, et puis dans Love Don't Come Easy, ça peut faire et de You Just Have to Wait, ça peut référence au désir d'enfant et aux difficultés qu'on peut rencontrer avant pouvoir accueillir un enfant. Et je fais le parallèle aussi avec la grande cause qui tient à cœur au cœur de Tim Cook, qui est la cause LGBT. Plus, et j'ai plus qu'on met à la fin de l'acronyme, qui a été le California Dreaming, a été la Californie a été en pointe sur ce combat des LGBT pour avoir un droit à l'accueil d'un enfant au même titre que les couples hétérosexuels. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça fasse référence à la rumeur récurrente de la détection du fameux pic de 37,2 le matin, qui correspond au pic de l'ovulation de l'ovulation et de la fertilité, du moment de fertilité optimum chez les femmes.
Ah ouais là. Effectivement, Gilles, ouais, c'est fallait y penser.
Non, on est parti loin, hein.
Je voulais dire, fallait y penser. Pour, écoute, j'ai envie de te dire, pourquoi pas.
Surtout si l'Apple Watch est capable de mesurer ça dans ses capteurs. Alors là...
J'ai rarement été... Bon, je me plante 9 fois sur 10, mais je mettrais bien une pièce sur, là-dessus, comme dit mon ami François.
Bon, en tout cas, bravo pour cette tentative. On sera fixé mardi et on verra s'il y a un lien effectivement avec l'ovulation des femmes et une quelconque aide pour les aider à tomber enceinte. On verra ça ensemble. En tout cas, bon, dans ces invitations, il y a toujours, on le croit, des indices. Certains ont parlé aussi peut-être de le certains ont parlé aussi d'un Always On Display pour l'iPhone 13.
Oui,
on l'a évoqué un certain nombre de fois, ça déjà, comme sur l'Apple Watch. Oui.
Comme sur l'Apple Watch. Donc c'est tout, pour le reste, il va falloir attendre. Après, on va parler de ce qu'on croit savoir. Alors, on est sûr qu'il y aura le nouvel iPhone mardi.
Oui.
Yes.
Oui.
iPhone 13 ou iPhone 12S ? Quel est votre sentiment ?
13.
Est-ce que cet iPhone mérite de s'appeler l'iPhone 13 sur la base de ce
pourquoi
qu'on sait?
Bah pourquoi pas, il vient après le 12 et avant le 14. Donc...
François, je vois plutôt faire non.
Je pense qu'en fait, Apple va laisser de côté le côté S comme on a pu l'avoir. Je pense que psychologiquement, pour les gens, on avait l'impression que c'était une petite évolution, alors que de les nommer avec un gros numéro, un beau nouveau numéro, ça, y a plein de nouveautés et tout. Puis si ça pouvait être plus simple.
Parce que le S n'avait de sens que parce que Apple s'était calqué sur la scansion habituelle à l'époque des opérateurs, où on avait un financement par subvention tous les 24 mois. Donc on avait le numéro plein à année 1, et pour ceux qui n'avaient pas fait le pas et qui rejoignaient le groupe, on avait un S pour ne pas que les gens qui avaient fait l'effort d'acheter la première année se sentent un peu trop vite déclassés, quoi.
J'aurais utilisé un autre mot, moi.
C'est un peu ce sentiment-là quand, pour les gens qui mettent le prix fort, les primo-adaptants, il y a vraiment ce sentiment d'être les premiers sur le coup et donc d'être en avance. Donc si les autres qui viennent après sont bien identifiés, étiquetés, labellisés comme étant arrivés un petit peu après, c'est pas plus mal pour ce sentiment d'être en avance, oui.
Bah juste un petit point pour compléter ça. Nous, ce qu'on a constaté, je pense qu'Apple, ayant nos chiffres et ceux de leur propre boutique, a dû faire la même constatation, c'est que les années où il y avait du S, les clients achetaient moins. La tendance des ventes, parce qu'effectivement, ils se disaient c'est un produit intermédiaire, mais quand on est passé à ce cycle 11-12, et puis cette année 13, les ventes ont été vraiment fortes, parce que nouveau numéro, nouvel appareil, c'est dans la tête des gens, c'est très important, alors que S, c'est l'iPhone de l'an dernier avec juste un petit truc.
Ouais, très juste. Alors, on va pas faire toutes les caractéristiques, mais pour vraiment avoir une idée générale, à quoi va ressembler cette gamme iPhone 13 ?
Alors, d'abord, il y aura 4 modèles, donc comme la gamme d'iPhone 12. Donc, il y aura un 13 mini, un 13, un 13 Pro et un 13 Pro Max. Dans les dernières rumeurs qu'on a pu trouver, il semblerait que l'encoche, on s'est vraiment habitué depuis l'iPhone 10 à cette encoche, et était réduite enfin avant de peut-être disparaître l'an prochain, mais donc là l'encoche serait plus petite, la batterie serait plus importante, même le mini gagnerait une heure de batterie supplémentaire, ce qui n'est pas négligeable. Les dernières rumeurs disent que même si les batteries sont plus importantes d'à peu près 10% en taille par rapport au 12, l'autonomie pourrait être équivalente, voire légèrement inférieure lorsqu'on a le mode Always On, donc le 120 Hz, donc le on display, je ne sais plus comment ils l'appellent, mais ça coûterait un peu d'autonomie, mais il y aurait une façon, lorsqu'on passe en mode économie d'énergie, ou peut-être qu'on peut le désactiver dans les réglages, et qu'on revient aux 60 Hz qui sont largement suffisants, on gagnerait quand même de l'autonomie. Donc ça, c'est au niveau de la batterie. Après, ensuite, évidemment, le Pro Max aura toujours des petites nouveautés, des petites choses extra en photo parce que la taille permet de faire des choses. Il semblerait
ça te fait rire,
que...
François.
Ben oui, c'est...
La taille permet de faire des choses.
Ben, on essaie de lui expliquer que c'est plutôt la façon dont on s'en sert, mais il veut pas. Lui, il est.
Je t'ai vu, Chenapan.
Obsédé par la taille. Que voulez-vous ? Donc, des petites choses. Il semblerait que donc les capteurs pourront recevoir à peu près 15% de lumière en plus. Et le capteur ultra grand angle, jusqu'à 40% de lumière en plus, qui serait... vraiment intéressant.
C'était le gros défaut, surtout le très grand angle, il est quand même pas. Il s'était amélioré sur le modèle 12, mais sur le modèle 11 en particulier, il était catastrophique, quoi. L'ultra grand angle, quand on était en faible lumière, c'était moche. Honnêtement, le rendu était pas top.
Mais là, il aurait encore amélioré. Il y aurait un nouveau mode dit cinématique qui fait que en mode portrait, on utilise encore une fois l'intelligence artificielle et de la stabilisation optique de l'image de façon à ce que, en mode portrait, le sujet central soit toujours au centre de l'image. Donc même quand on a tendance à dévier un peu, les capteurs de l'iPhone compenseraient de façon à ce que le sujet revienne au centre. Et ça, c'est rigolo, il faudra qu'on le teste. Hein. Et la dernière chose...
C'est le cadre centré dans l'iPhone.
C'est exactement ça. Ça nous fera rire encore une fois quand on verra la traduction, mais c'est comme ça. Et la dernière chose, c'est ce mode astro, je sais plus comment l'appeler, astronomique.
Astrophotographie.
Ça c'est vraiment le gadget qui sert à rien, quoi. Enfin, je suis désolé, mais autant j'entends sur les photos en pleine, en basse lumière. Photos de nuit, mais honnêtement, l'astrophotographie, c'est quand même un truc de niche. Si on achète un iPhone 13, on va tous le tester une fois, puis une fois qu'on l'aura testé, après, on l'utilisera plus. Je pense qu'il ferait mieux de mettre sur la côté photo, tout court.
J'ai de l'avis du photographe.
Alors, ça peut aider sur les selfies de nuit. Les gens... les Américains sont très... on va camper, sont très nature. On prend la voiture, on va camper, on se prend en photo en permanence, oui.
Est-ce qu'on pourrait avoir un mode HDR qui permet la nuit à la fois de voir le sujet, donc nous, et les étoiles dans le ciel ?
Ça serait le but.
Ça serait le but, mais il va falloir doser. Il faut faire confiance.
Pourrait avoir de la gueule, hein.
L'intelligence artificielle, parce qu'il faut doser, sinon c'est, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais le HDR c'est très laid, et pour moi c'est l'anti-photographie, quoi.
Moi je pense que ça va être réservé à des professionnels, parce que je vois très bien les amateurs en train de faire, parce que c'est joli, des photos totalement coupées de leur compagne et autres, où on verra une partie de la tête et puis beaucoup d'étoiles. Ils disent, mais qu'est-ce que t'as fait ? Ah ben, j'ai voulu prendre des étoiles, hein, et moi ?
Bon, bonjour, les scènes de ménage. Étoiles, mon amour.
Bien, François, très bien.
Scène de ménage en perspective.
Si on va dans le truc de niche, le mode cinématique, c'est un peu beaucoup pour les Bretons, cette façon de vouloir se redresser des gens qui sont un peu à l'équilibre, un petit peu instable. Si on combine les deux, les photos de fin de soirée dans les rues de Rennes ou de Vannes, pour ne pas le nommer, bon, ça peut être utile.
François, tu réagis, fais quelque chose.
Réagis, dis quelque chose.
En même temps, c'est défends à moitié vrai. Donc
Est-ce qu'on a autre chose à avancer de manière un peu certaine sur les iPhones ? Sur les couleurs, on va rester sur les mêmes coloris ? D'autres ? Ça va changer ?
Il y aura une nouvelle couleur. Gold.
On parle de rose aussi. Mais...
Bah, c'est ce rose gold, mais qui tirait un peu vers l'orange. Mais encore une fois, comme c'est des rumeurs, je sais pas si ça sera la vraie couleur, j'ai pas vu de photo de la gamme, hein.
Pour Lightning, on continue?
Oui.
La fameuse fonction qui permettrait de passer par un satellite pour des appels d'urgence?
C'est pas clair. Alors, ça.
Certains pays éventuellement. Et puis il va falloir avoir l'abonnement e-douane.
On ne sait pas.
Ouais. On ne sait pas, parce que si c'est pour des messages d'urgence, ce serait juste un burst en disant il y a un souci, peut-être pas. Parce que sinon, les gens ne l'utiliseront pas. Hein. Ouais. S'il faut s'abonner à un service satellite, ça coûte une blinde. Hein.
Bah oui. Bon, je vous propose qu'on passe à l'Apple Watch, qui devrait être le deuxième gros morceau de cette keynote de mardi soir. Apple Watch série 7, François. Et pour la première fois depuis le lancement, on parle d'un changement de design.
Ah bah, c'est le deuxième changement de design, parce que la série 4, il y avait eu quand même un petit changement.
On avait gagné un ou deux millimètres en largeur, ouais.
Ça serait un millimètre de plus à chaque fois. La 40 passerait en 41, la 44 passerait en 45. Par contre, il semblerait que, étant donné que l'écran est totalement bord à bord, puisque les bords de la montre deviendraient un peu biseautés comme ceux des nouveaux iPhones et pas arrondis, l'écran devient tellement plus important en affichage qu'Apple aurait imaginé des nouveaux cadrans pour tirer parti de tout cet espace, on parle de millimètres, mais de tout cet espace nouveau. Donc, les gens sont très excités, et ça pose d'ailleurs apparemment des problèmes de fabrication, en disant que c'est vraiment un gros redesign de la montre. Que une fois qu'on aura vu une série 7, on saura que c'est une série 7. Ça sera vraiment différent.
Oui. Pas comme la série 3 de mémoire qui se distinguait juste par le point rouge sur le...
Quand c'était une cellulaire.
Ça, pour les modèles cellulaires, ouais, sur le...
La Digital Crown.
Digital Crown.
La Digital Crown. Merci les amis.
Yes.
C'est le nom de la molette pour les spécialistes des montres, je crois, la couronne.
On parle aussi d'un progrès sur la batterie. Et ça, c'est important parce que c'est quand même un des problèmes de l'Apple Watch, l'autonomie.
Oui.
Ouais, tient la journée quand même.
Oui.
Largement.
Une journée et demie, oui.
Et puis elle charge vite. Hein.
Là, on gagnerait une heure, je crois, hein.
En fait, il paraît que ça sera le plus gros progrès en batterie Apple Watch depuis la première Apple Watch, depuis l'Apple Watch 0. Hein. Donc c'est à tester, mais moi je suis assez d'accord avec François. Moi j'utilise la montre grosso modo de 7h du matin jusqu'à minuit. Et des fois, je l'utilise toute la nuit en contrôle de sommeil, etc. Et il suffit que je la laisse une demi-heure avant le moment d'aller me coucher pour qu'elle recharge largement de quoi tenir la nuit et... Et voilà, une petite demi-heure avant de me coucher, une petite demi-heure pendant la douche, et puis hop, là, elle est repartie pour une journée. Hein. Donc franchement, ça charge vite. Hein.
Bon, je vous montre pourquoi je n'utilise plus mon Apple Watch depuis quelques semaines.
Ah.
Eh oui, catastrophe. Elle est tombée sur un sol en carrelage. Une chute et bing, l'écran a explosé malheureusement. Donc j'ai hâte de voir arriver cette nouvelle Apple Watch série 7.
Moi, à mon avis, tu l'as fait exprès pour avoir l'obligation d'en avoir une nouvelle. Moi, je peux essayer de faire la même chose comme ça. Personne ne va rien me dire.
Ça m'a fait de la peine, je te jure. Ça m'a fait trop de peine.
Mais moi, c'est une série 5, hein, c'est pas une 6. Hein.
Ah. Bon, quel sera le troisième produit probablement annoncé mardi soir, les amis?
The New AirPods.
Yes. Numéro 3, justement.
Et là aussi, apparemment, c'est pas une petite évolution.
Bah non, on va avoir le droit à des AirPods Pro sans la réduction de bruit, sans le mode transparence. Le design risque de vraiment devenir assez similaire, voire même un tout petit peu plus court, d'après ce qu'on a pu dire. Maintenant, je vois pas trop comment est-ce qu'ils vont réussir à faire plus court que les AirPods Pro. Mais c'est impressionnant, hein. Les AirPods, c'est vraiment un des succès d'Apple, c'est monumental. Tout le monde se moquait ce produit quand il est sorti, coton-tige dans l'oreille. Pas toi, mais beaucoup de gens le moquaient.
Oui.
Et tout le monde s'est précipité dessus ou sur les copies.
Je pense que c'est le produit Apple sur lequel on a été le plus surpris par rapport à toutes nos prévisions, même au bout de 30 et quelques années. Les ventes ont surpassé toutes nos prévisions. Les gens se sont jetés dessus, alors que pourtant on s'était dit oui, ça va se vendre, mais bon. Mais non, ça a été une rupture de stock quasiment pendant 2 ans. Hein. Ça a été la folie. ce produit. Et dans les petites choses qu'on sait dessus, c'est que la batterie serait à peu près 20% plus grande, elle est plus grande, ce qui est quand même pas négligeable, et que tous les modèles se chargeraient donc par induction.
Tu parles de la batterie, oui. de l'étui, pas de la batterie des écouteurs eux-mêmes, hein. Attention.
Yes, yes. Oui, on n'arriverait pas à caser 20% dans les petites tiges. Non, pardon. La précision est tout à fait importante.
Et il n'y aurait plus que des étuis induction.
Exactement. Enfin,
compatibles aussi avec l'induction.
En même temps, c'est un peu pingre de la part d'Apple de ne pas l'avoir fait plus tôt.
C'est vrai.
C'était un moyen de vendre une option à 50 balles, quoi.
Il n'y a pas de petit profit.
Ah, ça.
Il y avait peut-être des stocks de composants écoulés aussi.
Il y aurait des embouts amovibles. C'est des petites choses, mais...
Je ne suis pas sûr. Parce que les embouts amovibles, c'est très important pour la réduction de bruit. Parce que rappelez-vous qu'il y a cette histoire d'équalisation de pression qui fait que quand vous le mettez dans l'oreille, clac, vous êtes isolé. Si ça ne fait pas de réduction de bruit, ce n'est pas nécessaire.
Bah après, les Powered Beats Pro ont des petits embouts alors qu'il n'y a pas de réduction de bruit.
Alors ?
Why not ?
Voilà, en tout cas, on mise sur la présentation des nouveaux AirPods, les AirPods 3, mardi soir.
Oui.
On va s'aventurer sur un quatrième terrain. Hmm. Et ça, c'est lié à une info qui y a quelques heures. C'est que les iPad 8, apparemment, sont à la limite de la rupture de stock chez Apple, et ça peut être un signe, Ellie.
Alors, oui, et franchement, ça m'a fait douter, mais je continue à penser qu'une keynote iPhone ne mélangera pas des iPads. Donc, je continue à maintenir pour moi la disponibilité des iPads pour octobre. Alors, est-ce que ça peut être annoncé en septembre et disponible en octobre? Ou est-ce que les stocks diminuent et il y aura une certaine rupture et une deuxième keynote qui serait, elle, début octobre, hein, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre un mois pour en refaire une autre, hein. Rappelez-vous que la tendance était plutôt 3 semaines, hein, donc une bonne partie va être occupée par la disponibilité de l'iPhone le temps que ça arrive, et puis ensuite les gens commencent à acheter des iPhones et puis hop, tout de suite après une keynote. Ou une petite... Mais alors, je sais pas, je suis très partagé. J'adorerais vraiment, surtout pas tellement pour l'iPad 9e génération, qui va certainement être bien, et pas cher. Donc, c'est un produit qui se vendra énormément à cause de son prix. Mais c'est surtout pour l'iPad mini 6 que nous attendons depuis tellement longtemps. Moi, j'aimerais bien qu'il l'annonce mardi, vraiment. Hein. Je pense que... une petite larmichette, là, s'il l'annonce. Hein.
Tu y crois, François ?
Il y a un autre produit, en ce moment on voit des promos assez énormes sur les iPad Air aussi, sur les iPad Air 4. Et à mon avis, de toute façon, on aura l'iPad mini 6 et un nouvel iPad Air parce qu'il risque de partager pas mal de composants. On a parlé du Touch ID, on a parlé évidemment du processeur. Donc à mon avis, voilà, je pense que les trois arriveront ensemble. Maintenant, est-ce que ce sera pour mardi ou pas ? Ça
fait trop de produits pour une keynote. Il y a un risque si les journalistes trouvent que l'iPad mini 6 est extraordinaire, qu'ils parlent de l'iPad mini 6 plus que d'un iPhone particulier comme le 13 mini ou autre chose. Donc Apple n'aime pas mélanger les messages. Et puis il faudrait parler d'iOS 15 et d'iPadOS. Donc ça fait deux autres parties. Il vaut mieux faire deux keynotes plus courtes qu'une keynote très longue avec plein de produits. Parce que comme la place pour parler des produits est toujours limitée, vous le savez mieux que moi, vous qui avez été dans la presse et dans la... On retient des messages courts. S'il y a 8 produits à annoncer, ça va se fondre dans la masse.
Et puis même les rédacteurs en chef vont couper dans le truc.
Et pourtant, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et la surprise, à force d'avoir des invitations en réalité augmentée, est-ce qu'on va pas se prendre un jour ou l'autre la première démo de l'appareil qu'Apple pourrait sortir dans le courant de l'année prochaine, Ellie ?
Ça, c'est possible.
C'est possible parce que c'est de la technologie et qu'il faut du temps pour les développeurs pour s'adapter et qu'il faut que les gens et le public commencent à s'habituer à cette idée que ça va arriver. En tout cas, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. On l'a déjà dit tellement de fois. Pour moi, c'est quasiment sûr qu'on aura quelque chose avant Noël. Maintenant, est-ce que c'est septembre, octobre ou novembre ? Je ne sais pas, mais ça pourrait être septembre, puisque ces lunettes, je vous le rappelle, fonctionneront avec l'iPhone, puisque c'est quelque chose que vous portez sur vous. Ça ne fonctionnera pas avec un MacBook Pro M1X, ça ne fonctionnera pas avec un iPad, etc. Ça fonctionne avec un iPhone. Donc, l'annoncer en même temps que l'iPhone, ça a du sens, puisque vous les portez avec vous. Hein, donc, vous ne sortez pas dans la rue avec votre 16 pouces pour pouvoir faire de l'AR.
Mais du coup, ça, le risque, c'est que ça cannibalise complètement l'annonce de l'iPhone elle-même.
Non, on montre... On a dit, on va montrer, et bon Dieu, Apple adore faire des faux départs ou annoncer des trucs un peu à l'avance. Quand c'est prêt, rien que pour voir les autres se précipiter, se gaufrer et tester le marché à leur place.
Je suis très partagé, parce que l'iPhone est tellement stratégique que je vois rien lui faire de l'ombre. Et en même temps, ces lunettes ou ce casque, ces Apple Glass... seront tellement liés à l'iPhone que ça semble logique de les présenter en même temps. Donc mon cœur balance, je ne sais pas.
Écoute, il y a un exemple, c'est qu'il y a eu des fois où Apple a présenté des produits qui ont été disponibles bien après, comme par exemple, si je me rappelle bien, le HomePod, qui a été présenté, mais qui a été disponible bien après.
L'Apple Donc, Watch
L'Apple Watch, pareil, a été présenté en même temps que l'iPhone et disponible
L'Apple
bien
TV.
Après. Bah, tu vois.
Le Mac
bah,
Pro.
Écoute, tout ça, il y a eu en même temps que l'iPhone
bah, L'Apple Pro, TV.
L'Apple TV, oui, c'était en même temps.
L'Apple TV, oui, c'est sûr. Mmh.
Et l'Apple Watch,
c'était
en même temps
même
que l'iPhone
avant.
Aussi.
Je vous pose une question pour déblayer le terrain. Est-ce qu'on a une chance de voir un nouveau Mac mardi?
Non,
aucune.
Non.
Il faudrait monterait en même temps. Donc,
Pas de MacBook Pro 14 ou 16 pouces mardi.
Non.
Après, ça arrive, Benjamin.
Fin octobre, début novembre. Ou mi-novembre.
Juste à propos des éventuels Apple Glass, une petite précision, c'est qu'au moment où on se parle, là, Ray-Ban et Facebook sont en train de présenter leurs lunettes connectées.
Bah, et Samsung, certainement aussi, hein, tant qu'à faire.
C'est peut-être par hasard s'ils se précipitent.
J'ai une question sur... les produits qui vont être présentés là mardi et sur les prix auxquels on peut s'attendre. On avait l'impression que la tendance était un peu à la baisse et puis la pénurie de composants bouleverse aussi le calendrier et les scénarios. Est-ce qu'on va avoir des iPhones plus chers ou pas à votre avis?
Alors non. La semaine dernière, on a dit oui parce que c'était ce que disaient les rumeurs à cause des composants. Les dernières rumeurs fiables de cet après-midi disent non, Apple gardera les mêmes prix parce que justement, nous, on craignait qu'une augmentation des prix des iPhones puisse inciter certains consommateurs à dire oh ben, écoute, non, finalement, il n'est pas si majeur que ça. Pourquoi est-ce que je vais payer 100€ de plus, admettons, pour... Et donc, je pense que ce n'est pas dans l'intérêt d'Apple. Je pense qu'ils peuvent... Ils ont des marges considérables hein, sur ces produits. Donc, je pense qu'ils devraient... non pas le baisser, ce qui aurait été bien, mais au moins le laisser au même prix. Plus, j'aurais dit oui la semaine dernière, j'ai plus de mal cette semaine.
Non, il y a deux raisons pour aller dans ce sens-là, je rejoins Ellie. Alors, dans le sens du maintien du prix, j'ai jamais cru à l'augmentation du prix. D'une part, Tim Cook a annoncé il prendrait la marge brute, c'est-à-dire la marge, le prix de l'appareil sans le marketing et sans la recherche et développement serait Apple rognerait sur cette marge brute qui est scrutée par les analystes comme le lait sur le feu pour en déduire la profitabilité de d'Apple, Apple prendra là-dessus. Alors que les trimestres précédents, ils avaient bénéficié d'une conjoncture malgré tout favorable. D'autre part, il y a une étude qui a été publiée selon laquelle le marché américain accueillerait très favorablement l'iPhone 13. Ils attendaient, sous réserve que le prix baisse ou reste à peu près équivalent. Donc, ils ne vont pas se tirer une balle dans le pied s'ils veulent en vendre de façon conséquente.
François, ton avis sur l'évolution des prix?
Bah, je rejoins, c'est vrai que la semaine dernière, on avait quand même laissé sous-entendre qu'il y aurait une augmentation. J'attends de voir. Hein. Après, il y a toujours l'histoire aussi de la conversion de dollar euro, donc ça peut jouer là-dessus aussi. Je pense que, voilà, j'espère honnêtement que les tarifs resteront les mêmes, parce que c'est vrai que le prix d'appel d'un iPhone 12, enfin d'un iPhone 13 mini, du coup, reste assez élevé, même si les prix restent les mêmes. Ça reste un petit smartphone, donc Apple n'a clairement pas intérêt à augmenter les tarifs.
Élie, tu nous as promis deux certitudes en avant-première mondiale sur la keynote. Est-ce que tu veux bien les partager avec nous ?
Ouais, mais c'était une boutade et c'est pour bien finir toute cette partie de rumeurs. Je voulais vous expliquer que j'avais passé des heures à regarder cette annonce, à l'examiner dans tous les sens, dans les couleurs, dans le texte, dans la réalité augmentée dont tu vas parler tout à l'heure, etc. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux en conclure, moi, de cette invitation ? Et j'ai conclu deux choses qui sont évidemment liées au titre. Et ces choses-là, ce sont des certitudes. Et je mets au défi quelqu'un de me dire que ce n'est pas vrai. Et les deux choses, c'est la première, en utilisant California Streaming, c'est que la keynote sera faite en Californie. Et même si j'osais, je dirais Cupertino, pour ceux qui veulent réviser leur géographie qu'ils ont pris en LV3, Cupertino, c'est en Californie. Hein. Donc, et la deuxième, c'est que ça sera en streaming. Voilà, et ça, ce sont deux certitudes.
Merci Élie.
Quel charlatan.
Voilà, heureusement que tu nous as vendu ta sauce.
Bah ouais. C'est vrai.
Heureusement que tu n'as pas mis le bandeau Breaking News, Benjamin.
Et c'est ça. Bon, dans un instant, peut-être le plus gros revers jusqu'à présent pour le projet Titan et l'Apple Car. C'est l'info de la semaine, le départ de Doug Field, vice-président en charge du projet Titan chez Apple. Oui, on parle bien de ce qui pourrait devenir l'Apple Car. Doug Field, ancien de chez Tesla, il avait lancé le Model 3. Eh bien, Doug Field et Apple, c'est terminé puisqu'il arrive chez Ford. Élie, comment est-ce qu'on peut analyser cette nouvelle qui n'est pas une bonne nouvelle pour Apple, dans tous les cas?
Oui, c'est vrai, mais il faut revenir un peu sur la carrière de Doug Field. J'ai lu avec grand intérêt tous les articles qui lui sont consacrés aujourd'hui. C'est devenu une petite vedette, ou une grande vedette. Hein. Ce garçon a commencé, il a travaillé pendant 9 ans chez le fabricant de gyropodes, dont le nom m'échappe, Segway. Donc il a travaillé 9 ans chez Segway. Ensuite, il a été débauché par Apple, où il a été à l'ingénierie Mac. Il était en fait responsable de hardware Mac. Tesla l'a débauché, donc il a été responsable de la gamme Model 3. Et Apple l'a redébauché pour le projet Titan, avant que Ford lui fasse des yeux doux en lui expliquant qu'eux sont des constructeurs automobiles, qu'ils ont déjà des modèles électriques, comme la Mustang Mach-E, etc., que justement, ils ont besoin de quelqu'un qui va donner à ces voitures, qui sont des réalités, qui existent, une meilleure interface, une meilleure intégration dans la communication, des choses comme ça. Et ils lui ont dit, mais nous, on fait du concret. Nous sommes des fabricants de voitures. On veut améliorer nos voitures. Vous savez comment les améliorer. Nous avons les usines, nous avons les batteries, nous avons le circuit de distribution. Venez bosser chez nous, parce que nous, c'est du vrai. Et c'est du vrai aujourd'hui, et ce n'est pas des projets qui peuvent être à 5 ou 10 ans. Et je pense que c'est ce qu'il a dit, hein, puisqu'il l'a déclaré. Il a dit que Ford lui avait parlé de choses qui résonnaient avec sa vision et sur les choses qu'il pouvait faire aujourd'hui.
Mais ça donne d'abord l'impression que chez Apple, ça n'avance pas.
Ou que ça avance très lentement. Après, pour dire est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, ça arrive en même temps qu'Apple vient de débaucher deux grosses pointures de chez Mercedes. Et c'est un tout petit peu, pour faire une analogie que vous allez comprendre, c'est un tout petit peu la réaction que pourrait avoir Mbappé en voyant arriver Messi au PSG. C'est-à-dire qu'il voit arriver vedette et il se dit, est-ce que ce n'est pas le moment, si quelqu'un en plus me fait les yeux doux, d'aller être une vedette moi ailleurs.
Donc, tout à fait.
Voilà.
Donc c'est pour ça que tu considères que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle.
Non, mais ça, de toute façon, je pense que ça ne retardera pas le projet, quel que soit le timing, qui va prendre 100 ans, ou en tout cas le temps que les ingénieurs de Mercedes s'adaptent à la façon de travailler d'Apple, mais on est en train de parler d'un laps très court. Mais cette voiture, et si on regarde les commentaires de Mark Gurman, hein, puisqu'on le cite très souvent dans Bloomberg, lui considère que c'est une mauvaise nouvelle pour Apple, et que le projet risque de prendre un peu plus de retard, mais lui considère que de toute façon, le minimum, ce sera 5 à 7 ans. Donc ça veut dire que le 2024, pour lui, c'est impossible. Cette voiture, c'est pour ça que je disais, à force de lire des choses comme ça, cette voiture va peut-être arriver un jour, hein, ou peut-être elle n'arrivera jamais, comme la télé Apple, hein, mais en tout cas, ne l'attendez pas pour les 2-3 prochaines années, hein, c'est niet.
Il y a deux trucs, c'est que le nouveau patron de Ford est un type avec un très fort charisme, et il a oui. peut-être fait le coup de Steve Jobs débauchant Tim Cook de chez Compaq. Et d'autre part, si Apple veut faire une voiture et veut révolutionner le marché automobile en faisant une voiture électrique, il ne se contentera pas de remplacer les batteries, de remplacer le moteur et le réservoir par des batteries, ou de mettre de l'intelligence dedans. Ça va passer par les moteurs, ça va passer par les roues, ça va passer par la manière entière de l'alimenter. Ils vont reprendre une copie de fond en comble, from scratch, comme disaient les Américains. Et donc, c'est un projet, ça peut expliquer pourquoi le projet est beaucoup plus long à accoucher.
Alors, moi j'ai un complément. Pourquoi est-ce que ça prend tellement de temps? Est-ce qu'Apple sont très mauvais? Pourquoi est-ce que ça prend tellement de temps? Je pense que ce que vient de dire Gilles, c'est la clé, pas du retard, mais du temps qu'il faut à ce projet. Apple ne peut pas se contenter de sortir une Tesla bis, parce qu'aujourd'hui, Tesla est la voiture électrique la plus vendue, et de très loin. Ils ont le circuit de distribution, ils ont les utilisateurs, ils ont les datas depuis 2012. Si c'est pour sortir une voiture qui a la même autonomie, qui a un design qui peut être joli, la Tesla est assez jolie, mais ils ont perdu Johnny Ive, donc il faudrait qu'elle soit très jolie. Il faudrait qu'elle ait une autonomie incroyable, mais les nouvelles générations de batteries, c'est pour dans 2 ou 3 ans. On parle de graphène, on parle de choses comme ça. Elles ne sont pas prêtes aujourd'hui. Il faut un réseau de chargeurs. La charge ultra rapide n'est pas prête aujourd'hui, même si on a fait des progrès. Et surtout, la conduite autonome qui semble être une des clés, puisqu'Apple travaille dessus. Tesla, aujourd'hui, c'est un des sujets, on pourra en reparler, ou peut-être je peux en parler d'ailleurs. Tout à l'heure, dans mon dîner, je vous donnais 2-3 trucs, parce que ça m'était sorti de l'esprit, mais ça peut être un plat de résistance intéressant. La conduite autonome chez Tesla est une réalité dans certains pays, comme les États-Unis, avec certaines conditions. En France, de façon très secrète, mais on va en parler tout à l'heure. Mais ce n'est pas aujourd'hui partout. Et Apple voudrait que si cette voiture est vraiment autonome, elle puisse sortir dans tous les pays du monde. Or, la conduite de niveau 3, 4 ou 5, au minimum, c'est 2025 à 2028. Parce que les législations ne sont pas là. Donc, pas de batterie nouvelle génération, pas de conduite autonome réelle. Ben, Apple peut prendre son temps et arriver sur le marché lorsque le marché est mûr.
Ce que je voulais dire aussi, c'est que la clé, les composants ne sont pas prêts. La clé de la rupture par Apple, c'est le composant, et le composant qui tue. Et ensuite, on construit le produit autour de ce composant. Ça a été l'écran pour l'iPhone, l'écran capacitif projeté au lieu d'être résistif, le disque dur, le micro disque dur pour l'iPod, le G5 pour l'iMac G5, celui de 2004. Il y a toujours un composant, et Johnny Ive construisait le design de produit autour de ce composant, et l'interface était pensée en fonction. Là, on n'a vraisemblablement pas l'autorisation d'utiliser le composant clé qui est la conduite autonome.
Juste, je voudrais ton avis, François, ce que tu écoutes religieusement. Est-ce que pour toi, c'est une mauvaise nouvelle pour Apple, très simplement ?
Je t'avoue que je suis perplexe. Je rejoins les analyses de mes copains. Effectivement, oui, je pense que ça peut marquer un petit ralentissement. Maintenant, pour moi, ça reste un projet qui est hyper obscur. Ça fait quand même des années qu'on en parle. J'ai du mal à y croire. Et je pense qu'aujourd'hui, Tesla a tellement pris de place sur le marché, a tellement... voilà, de succès, surtout auprès du même public que cible Apple. Ça va être, à mon avis, ça le vrai problème. C'est qu'aujourd'hui, les geeks, comme certains autour de cette table, c'est vrai, je pense à Ellie qui a roulé en Tesla un petit paquet d'années. C'est vrai que ce côté technophile nous plaît beaucoup et Tesla a réussi vraiment à... Voilà, Tesla, c'est la hype. Hein. Un geek, s'il veut être vraiment geek, il est quasiment obligé de rouler en Tesla, quoi. Je caricature énormément, mais c'est presque ça.
Mais donc tous les jeunes, aujourd'hui, François a totalement raison. Moi, ce que je vois, c'est les enfants et les ados. Ils sont totalement fous de Tesla. Ils viennent demander à leurs parents, ils viennent s'arrêter dès qu'ils voient une Tesla, etc. C'est devenu une icône, cette voiture. Et honnêtement, s'ils étaient moins têtus sur certains points comme CarPlay ou la connexion d'un smartphone, moi, je roulerais en Tesla aujourd'hui, hein, sans aucune hésitation.
Quand je vois le nombre de mes contacts Twitter qui roulent en Tesla et qui achètent des Tesla, mais c'est juste énorme. Des gens qui nous suivent, enfin, on pourrait en citer une liste, ouais, une liste énorme. Je vous pourrais vous parler de la Tesla de Sergio, je l'ai essayé ce week-end si vous voulez.
Ah ouais.
Cool. Non, mais quand même, pour en finir avec Tesla, souvenez-vous du BlackBerry, oui. Début des années 2000, c'était le truc des geeks, tout le monde en voulait, il ne se vendait que ça en termes de smartphone. Et puis, l'iPhone est arrivé, en 2 ans, c'était fini.
Après, on n'est pas sur la même gamme tarifaire non plus.
On n'est pas sur la même gamme.
Bon, c'était cher quand même.
Mais aujourd'hui, tu verras, moi, si je ne joue pas en bourse, vous le savez, mais si j'ai un conseil à vous donner, achetez des actions de Tesla, la valeur va être multipliée par 10. C'est vraiment, vraiment... Une société, elle va valoir dans les prochaines années... presque 3 trillions de dollars. Hein. Donc, dans les 10 ans, 3 trillions de dollars. Hein. Donc, parce que la stratégie est bien faite, parce qu'ils ont une voiture à 25 000 euros qui va arriver, la modèle 2, qui va arriver en 2023. Donc, quand tu auras une voiture avec une autonomie sympa, qui sera, va ressembler plus à une petite citadine, hein, mais qui va être à 25 000 euros, qui va être full électrique avec... tout le reste de Tesla et un jour la conduite autonome, à tel point que Elon Musk a dit un jour en boutade, mais la Model 2 sortira sans volant et pédale en 2023. Donc, bon, moi j'espère qu'il y aura quand même un volant et des pédales, hein. Je serai plus rassuré.
Bon, on va évidemment continuer de garder un œil sur ce projet Titan qui nous tient quand même en haleine depuis déjà plusieurs années hein, dans AirWeek. Dans un instant, les infos de la semaine, le JT, c'est Pommes. Et la première info, c'est la reprise d'i5. C'était lundi.
Yes.
C'est avec vous, les copains. Alors, Gilles, tu n'y es pas encore retourné, mais ça ne saurait tarder, c'est pour vendredi.
C'est moi, je passe le balai et l'appel le vendredi.
Comment, Gilles ?
Je passe le balai et l'appel le vendredi matin, avant le week-end.
Non, je ne te compare pas à la voiture balai non plus. François, Élie, vous avez, vous, déjà rempilé. Alors, cette saison 2, elle s'annonce comment ?
Bah, très bonne, parce qu'en plus, on a plein de... On reprend pile poil au moment où ça s'active, et je pense qu'on va avoir plein de nouvelles d'ici le mois de... Allez, le mois de décembre, je pense, sans problème. Toutes les keynotes qui nous sont annoncées, il se passe des choses quasiment tous les jours, donc non, il y a de quoi faire, et je pense qu'on ne sera pas en manque de sujets. Une fois de plus, je vais faire le même... Je vais tirer le même coup de chapeau que j'avais tiré l'année dernière, mais Benjamin... Enfin, la saison dernière. Benjamin, à chaque fois, tu nous retrouves des sujets en avant-première et souvent, on les voit sortir dans l'après-midi sur tous les médias tech français, alors que tu nous les as déjà sortis dans i5. Donc, encore bravo, Benjamin.
Merci, François. C'est sympa. Enfin, c'est un travail d'équipe. Hein, donc, je ne suis évidemment pas tout seul. On contribue tous à faire le programme. Élie, pour ceux qui ne connaissent pas encore i5, qu'est-ce que tu peux en dire et en quoi est-ce que c'est complémentaire à iWeek pour toi ?
Bah écoute, c'est 5 minutes, bon parfois un peu plus parce qu'on est bavard, donc 5 infos en 5 minutes, donc vous pouvez écouter ça à n'importe quel moment, dans un transport, entre deux coups de fil, entre deux conf-calls, il y a toujours, vous avez toujours quelques minutes pour écouter Hi5, c'est très dynamique, c'est très punchy. Moi, l'impression après l'été où on avait fait cette petite pause, j'ai retrouvé un format qui me plaît parce qu'il est très punchy. Il faut qu'on se réajuste à parler peu pour essayer de tenir ces 5 minutes un jour. Pour l'instant, on n'est pas arrivé, mais un jour, on fera une émission 5 news en 5 minutes. Mais pour l'instant, c'est super sympa de retrouver ce format qui complète bien iWeek, en fait. Hein. Donc, on va vous donner des pistes tous les jours de tout ce qui vient de se passer. C'est vraiment des infos ultra brûlantes. Et ensuite, on développera les plus importantes dans iWeek où on prendra le temps de les analyser.
Gilles, c'est un plaisir aussi de te retrouver le vendredi, hein, pour le coup. Hein, tu seras le dernier à intervenir le vendredi dans Hi5.
Voilà, j'éteins les lumières avant le week-end. Mais c'est un format que j'adore, qui est beaucoup plus dynamique. Punchy, ça nous force à aller vite, aller fort. Et tu parlais de travail d'équipe, d'où l'importance que l'intendance suive et que Apple joue le jeu de la mise en ligne et de la publication rapidement avant midi, quoi.
Alors vous le savez, c'est ce qui nous avait poussé à la fin du mois de juillet à mettre Hi5 sur pause. On a subi des délais de mise en ligne d'Apple qui étaient indécents, puisque ça a pris presque 3 jours hein, dans un cas pour qu'un épisode devienne disponible sur vos smartphones. Donc pour un rendez-vous quotidien, c'est évidemment pas acceptable. On a continué à faire des mesures pendant la suite de l'été, et puis on s'est dit là en cette fin du mois d'août, début septembre, que les délais devenaient raisonnables. On était sur des très très bonnes stats, hein. On était sur un gros quart d'heure entre l'encodage et la dispo des épisodes avec le fichier test qu'on a envoyé tous les jours. Donc on s'est dit bah go, c'est la rentrée, les keynotes arrivent, c'est le moment d'y retourner. Voilà, c'est un peu fluctuant selon les jours, ça a pris un peu plus d'une heure aujourd'hui par exemple, ou hier plutôt, mais ça reste raisonnable. Et donc vous avez votre dose Apple quotidienne à l'heure du déjeuner avec les 5 infos essentielles. On ne peut que vous encourager à vous abonner. Alors cette semaine, c'est la fête, donc les épisodes sont en libre accès, exclusivement sur Apple Podcast, je vous le rappelle. Et puis à partir de la semaine prochaine, eh bien, ils vont redevenir réservés aux abonnés. Et l'abonnement, on vous le propose à 3,99€ seulement par mois. Donc pour une vingtaine d'épisodes par mois. Hein. Donc on pense que c'est très très raisonnable par rapport au service qu'on espère vous rendre. La suite des infos de la semaine, c'est une info de nos confrères de MacG. Apple va augmenter les bas salaires en France.
En gros, ça représente une augmentation pour à peu près 40% des effectifs d'Apple en France, ce qui représente quasiment 1000 employés, un peu moins. Donc c'est les plus bas salaires qui seront augmentés, et y compris les gens qui sont à temps partiel. Donc voilà, on a tendance facilement à critiquer Apple. Donc pour une fois, on va pas trop les critiquer. Et puis on vous laisse aller regarder l'article sur Mac Génération. N'hésitez pas.
Sur abonnement, hein, oui. C'est un article payant.
Oui, je me suis amusé à faire le calcul, hein, puisqu'il parle effectivement des bas salaires. Et donc l'engagement d'Apple, c'est qu'il n'y en est pas au-dessous d'un niveau. Donc moi, je me suis amusé à calculer ce que ça donnait. Et en fait, ça veut dire, parce que j'ai le calcul sous les yeux, qu'il n'y aura pas de salaire inférieur à 1974€ bruts. 1974€ brut, donc ce qui est un bon salaire que certainement des tas de gens voudraient avoir aujourd'hui. Je vous rappelle que le SMIC est pas, parce qu'il augmente, hein, il est pas loin de 1600, donc on n'est pas en plus en train de parler de salaire délirant, hein, surtout que chez Apple, souvent c'est du temps partiel, Et que donc, ça, c'est le salaire correspondant à un mois complet. Hein. Donc, un salaire à moins de 2000 euros brut, c'est pas non plus un salaire de fou. Hein. Mais on parle certainement de petits postes. Hein. Ce ne sont certainement pas des commerciaux ou des genius, etc. Hein. Donc, puisque... Mais en tout cas, le plus bas salaire chez Apple est à un peu moins de donc, 2000 euros, donc à 1974 euros brut par mois.
Et ça va représenter une hausse de combien pour ces bas salaires ?
C'est pas indiqué sur l'article.
Non, c'est pas indiqué.
Cette augmentation du salaire, de la masse salariale et du salaire des bas salaires intervient pas n'importe quand. C'est au moment où le ministre de l'économie a lancé un gros appel du pied en ce sens, en direction du patronat, enfin des employeurs français. Et c'est un moment où Apple, ferraille, se bat pied à pied pour essayer de ne pas d'empêcher l'adoption d'une augmentation de la fiscalité sur les entreprises et les multinationales. Et on est dans un truc de bonne volonté, de messages d'apaisement pour essayer d'obtenir des choses qui sont beaucoup plus importantes en termes de masse financière pour une très grosse multinationale, sachant que les Français sont très en pointe sur ce dossier au niveau européen.
Après avoir cherché des poux dans la tête d'Apple sur le respect de la vie privée, l'Allemagne reconnaît avoir utilisé le logiciel d'espionnage Pegasus, Gilles.
Oui, c'est la numéro 2 de la police allemande qui a avoué ça devant une commission à huis clos du Bundestag, c'est-à-dire l'Assemblée nationale allemande, en disant que depuis 2019, ils ont acheté Pegasus parce que ça corrobore des informations de presse de Die Zeit. La police allemande a acheté l'accès à Pegasus parce qu'ils avaient échoué à développer leur propre logiciel espion pour avoir accès au téléphone de suspects dans des affaires de terrorisme. Ce qui tombe mal, puisque il y a à peine un mois, le président de la commission sur qui est en charge du numérique, dans la même, Bundestag, s'était fendu d'une lettre à Tim Cook qui qualifiait cette affaire de recherche de photos pédopornographiques à l'intérieur des iPhones. C'était l'atteinte à la protection de la vie privée la plus importante depuis la création d'Internet. Ça, on retrouve un peu la problématique qu'on avait soulevée la semaine dernière, je crois, ou celle d'avant, selon laquelle il y a un équilibre difficile à trouver entre le respect de la vie privée et la recherche des outils que sont les téléphones portables que peuvent utiliser des délinquants. Ouais. Alors on parle de démocratie, ça peut être beaucoup plus. Il y a des, ça sort dans la presse, c'est il y a des garde-fous constitutionnels pour un régime dictatorial, c'est beaucoup plus problématique. On a l'exemple type que dans une démocratie, c'est un peu un batteur de jazz. Tu as chaque main, chaque pied qui fait, qui joue une partition différente, et la tête, il n'y a que la tête qui sait ce qui se passe, et on a un équilibre qui est respecté. Les régimes dictatoriaux, c'est un peu la grosse caisse et le pas de loi, quoi. On entend que les bruits de bottes.
Merci Gilles. Et puis une dernière info, HBO Max arrive en Europe le 26 octobre, mais pas partout. Et la France, Ellie, bah, ce sera pour on ne sait pas quand, la troisième salve, ou peut-être même encore plus loin.
C'est normal.
Vas-y Gilles.
C'est normal. Orange avec OCS, un accord d'exclusivité avec HBO pour diffuser l'ensemble de ses contenus à J+1, le temps de les localiser. Donc il faut attendre de voir si le contrat sera reconduit, ce qui m'étonnerait fort, et surtout qu'il arrive à expiration.
Et Gilles, quand on voit la liste des pays là, qui vont voir arriver HBO Max, c'est presque drôle, parce que le 26 octobre, donc, il y a 6 premiers pays, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande, l'Espagne et Andorre. Il y a ensuite 14 autres régions qui verront arriver HBO Max l'année prochaine. Alors, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Moldavie, le Monténégro, la Macédoine du Nord, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie. Bon, c'est vrai qu'on on voit aucun de nos voisins. L'Italie n'est pas citée, la Grande-Bretagne n'est pas citée, l'Allemagne n'est pas citée. Étonnant, hein ?
Mais non, enfin oui et non, mais c'est assez logique parce que les pays que tu as cités, d'abord, un, sont des gros consommateurs de séries. Deux, ce sont des pays très anglophones par rapport à ce qu'ils regardent au cinéma et à la télé. Et ensuite, ils n'ont pas de services locaux. Le problème en France, par exemple, c'est qu'on va se trouver évidemment avec OCS, on en a parlé, mais il y a aussi Salto, et puis il y a des délais, parce que la loi française impose que quelque chose qui passe au cinéma ne peut pas passer à la télé avant un temps qui est presque infini par rapport aux États-Unis. Or, HBO Max, c'est des exclusivités qui passent immédiatement. Donc, c'est en totale contradiction avec le droit français actuel. Et je ne pense pas qu'ils veuillent l'abolir, puisque le cinéma finance Canal+, et les autres chaînes de télé financent le cinéma français. Donc, ça serait une façon de les tuer. Donc, et je pense qu'en Angleterre, c'est pareil. Et je pense qu'en Italie, c'est pareil. Et l'Espagne, c'est un peu moins subventionné. C'est pour ça qu'ils sont peut-être avant. Mais ouais.
C'est ce qu'on appelle la chronologie des médias en France. Effectivement, mais c'est très encadré. Ouais.
Mais il y a, ça va peut-être arriver plutôt en France. Et puis, dans ces, il y a peut-être des, faudrait vérifier des accords de diffusion avec des opérateurs locaux, mais arrivera peut-être en France plus rapidement, mais il faut le temps de négocier la rupture du contrat.
Une seule rumeur cette semaine, les amis, c'est John Prosser qui annonce dévoiler les caractéristiques, alors non pas de l'iPhone 13, qui doit être annoncé mardi prochain, mais de l'iPhone 14. Je te vois lever les yeux au ciel, Ellie.
Mais oui, parce que le 13 n'est pas encore sorti, que déjà on parle du 14. On n'arrêtera pas. Moi, je vais lancer une rumeur la semaine prochaine sur l'iPhone 15. Voilà. Mais bon.
Il a fait un visuel pour teaser sa vidéo YouTube avec ces mots « Sorry, Tim ». Désolé, Tim.
Il est un peu
c'est un showman, John Prosser.
Hein.
Mais... Il en fait beaucoup. Il en fait beaucoup.
Mais faire un rendu 3D... Quand on a des gens qui savent faire, c'est très joli, ouais, puis, ça n'engage à rien de faire ça.
Il est même allé plus loin, c'est qu'on l'a en réalité augmentée, en AR aussi. Hein. Sur le même principe que Apple, il y a une adresse, en fait, vous pouvez aller sur le site internet et vous pouvez faire exactement comme avec la pomme. Donc c'est là où il a poussé le vice vraiment très très loin. Donc il pronostique quand même pour le dire, hein, même si bouchez-vous les oreilles ceux qui veulent pas. On garderait quand même le port Lightning, ce serait pas pour l'iPhone 14. Voilà. On aurait le droit à des boutons circulaires. Sur le côté, les boutons du volume, on repasserait au bouton rond comme on avait sur les iPhone 4, je crois, de mémoire.
J'y crois pas.
On aurait aussi droit à un châssis en titanium. Et ouais, la dernière chose, c'est la disparition de la petite notch en haut, l'encoche pour avoir tous les capteurs. On aurait juste un petit trou, enfin une petite caméra, un petit point rond sur le châssis. Voilà, donc c'est pour l'anecdote, hein, évidemment, on attend de voir. Mais il aime bien faire parler de lui, il aime bien se faire mousser.
Ouais, mais ça n'engage à rien ce qu'il a dit, parce qu'en fait, dire qu'on va mettre du titane à la place de l'aluminium, bon, ok. Le notch, ça fait des années qu'on en parle, et même Apple a présenté un truc où on le verrait même pas, mais il y aura un petit trou. Ça existe sur Android depuis des années, hein, donc il n'y a pas de quoi se pâmer. Et pour le reste, bah, le connecteur Lightning maintenu, moi je pensais qu'il n'y serait plus dans le 14, mais pourquoi pas. Mais à part ça, on ne sait pas plus de choses sur l'appareil photo, sur le processeur, sur... Et puis les boutons ronds, si on veut faire un iPhone fin, j'y crois pas. Hein. Honnêtement, j'y crois pas.
Ouais. Bon voilà, c'est John Prosser, c'est un peu le showman du secteur. Il nous reste deux infos à vous donner avant de passer au tuto audio. Elles concernent les mises à jour. Avec une 9e bêta de tvOS 15 Elite, 9, ça commence à faire beaucoup.
Ben, on est très proche, je pense, maintenant de la release finale, hein, puisque bêta 9 s'est appliqué à de l'iOS 15 aussi, à du iPadOS. Donc, mais c'est plus des corrections de bugs qui ont dû être signalées. Je n'ai pas vu de nouvelles fonctionnalités dans le descriptif. Si je me trompe pas, hein. Je sais pas si François a vu quelque chose que
non,
moi j'ai raté.
Non, c'est pareil. Pour moi, c'est plus du correctif de bug. C'est vrai que j'avais misé la semaine dernière sur les dernières versions avant la release candidate. Et bah, je me suis planté sur tvOS. Désolé.
Mais en tout cas, voilà, bêta 9, la semaine prochaine keynote, donc il y aura pas de bêta 10. Hein. Ça sera des versions finales. Hein. Après.
Et puis, une troisième mise à jour en 12 jours pour les AirTags avec cette nouvelle révision du firmware. Elle porte le numéro A1292E. Alors, on l'avait vu avec vous les amis, hein, les AirTags, ils font la mise à jour tout seuls quand ils veulent. C'est pas forcément immédiat. En tout cas, vous pouvez vérifier le numéro de série et la version du programme interne en allant dans l'application localisée, puis en sélectionnant le AirTag en question et en cliquant sur son nom. Voilà, entrez dans le logo Apple en réalité augmentée. Je ne sais pas si ça vous dirait, mais dans un instant, je vais vous expliquer comment découvrir l'Easter Egg caché dans l'invitation d'Apple pour la keynote de mardi. Le tuto audio dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, et aujourd'hui on va faire l'expérience ensemble de cette Easter Egg, cette œuf de Pâques en réalité augmentée. Ça devient une habitude hein, maintenant à chaque invitation pour une keynote, Apple inclut cette surprise en réalité augmentée dans le visuel de l'invitation. Alors vous avez peut-être jamais fait l'expérience de la réalité augmentée, parce que vous vous dites peut-être que c'est compliqué, qu'il faut un matériel que vous n'avez pas. Ben non, en fait, si vous avez un iPhone récent ou un iPad à portée de main, et ben vous avez tout ce dont vous avez besoin pour tester. Alors c'est très très simple, hein. Il suffit d'aller sur le site apple.com via Safari, vous scrollez un petit peu, vous allez tomber sur le carré qui concerne l'Apple Event de mardi. Vous cliquez sur ce carré, vous arrivez sur la page de l'Apple Event et au centre de cette page, vous avez ce fameux logo Apple en néon, en halo qui se reflète au-dessus de l'eau. En fait, il suffit que vous cliquiez sur le logo et quelques instants plus tard, eh bien, vous allez activer l'interactivité et la réalité augmentée. Alors ça se présente comment ? Eh bien, pointez l'iPad ou l'iPhone vers le centre de la pièce, par exemple, et vous allez voir apparaître en tout petit le logo Apple en trois dimensions. Alors il va être vraiment tout petit au début, et puis il va commencer à grossir. Vous allez commencer à entendre une musique de fond. Vous allez pouvoir tourner autour du logo, vous allez pouvoir passer au-dessus. Et au fur et à mesure que vous vous en approcherez, eh bien, la musique va prendre de plus en plus de place et d'importance. En fait, c'est une invitation à ce que vous entriez dans le logo. Alors, on vous invite à le faire. Hein. Vous allez voir le logo agrandir, devenir de plus en plus grand, à tel point que vous allez pouvoir simuler que vous entrez dans le logo. Et une fois que vous entrez dans le logo, eh bien, vous découvrez ce lac avec cette crête en arrière-plan à l'heure du crépuscule. Et vous verrez apparaître au-dessus de l'eau la date de cette keynote 9.14, et donc 14 Septembre, voilà. Tu disais ce matin, hier matin, plutôt dans i5, François, que en fait, c'est les seules occasions où tu utilises la réalité augmentée sur ton iPhone. Et il serait temps qu'Apple, entre guillemets, nous permette d'en profiter davantage.
Ouais, et puis développe des vrais usages. Je pense qu'on a on a beaucoup de mal à se faire à cette réalité augmentée. Et c'est vrai que, par exemple, je repense à cet été, on était en montagne, on se posait la question de savoir où est-ce qu'on était, ou même quand on se balade, je sais pas, au bord de la mer, savoir quelle île on a en face de nous. Il y a tellement de possibilités. Je trouve ça décevant que pour l'instant, il n'y a rien de vraiment utile et à usage récurrent, en fait.
Eh ben, ce sera peut-être pour mardi. On ne sait jamais.
Il faut un support. Pour... Ouais.
Quel genre des lunettes, un casque?
Ah, les lunettes, pas le casque. Ouais. C'est l'occasion rêvée pour se casser la figure en montagne, ouais, et nourrir les vautours. Ça tombe bien, ils sont protégés. Mais il y a les jipettes barbus aussi. Mais sinon, les lunettes à réalité augmentée, c'est... Ou une Apple Car, hein. Tu mets plan avec les itinéraires sur le mode collimateur tête haute, sur le pare-brise, en réalité augmentée.
Les voitures ont ça. On n'a pas besoin des lunettes pour mettre ça dans une voiture. Moi, la mienne, elle le fait. Elle le fait très bien. Hein.
Sur le pare-brise, mais en rajoutant des trucs de réalité augmentée, justement.
Mais c'est aujourd'hui, ça marche très très bien dans les voitures. Hein. Vraiment, déjà.
Je rêvais ça dans les années 2000.
Il faut que tu viennes me voir, hein, mais dans la mienne actuelle, ça le fait très bien. Et dans la prochaine, c'est juste magique, hein, parce que j'ai vu la démo. C'est juste qu'ils ne veulent pas me la livrer, mais c'est juste magique.
Bon, on va continuer de rêver en se mettant autour de la table d'Eli. À tout de suite. Le dîner d'Eli dans iWeek, la semaine Apple, le podcast. C'est l'heure du dîner, ça tombe bien, on a faim. Quel est le menu, Eli, et par quoi on commence en entrée?
Alors, on va faire des petites entrées, en fait, qui nous sont venues par Twitter. Hein, donc, deux infos très légères et sympathiques. Donc, il semblerait que Twitter teste la possibilité, ils ont commencé à faire des tests, d'avoir des vidéos et des images en pleine largeur d'écran, un peu comme fait Instagram, un peu comme font les concurrents. Eux, ils s'étaient toujours limités. Donc, ce serait bien agréable d'avoir ces images et ces vidéos en pleine largeur d'écran. Et il teste aussi la possibilité, c'est Gilles qui l'avait trouvé, donc du coup je l'incorpore à ma news parce que ça concerne Twitter, c'est la possibilité en fait de faire un peu le ménage dans les followers sans les bloquer. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui vous suit et vous êtes obligé de le bloquer, ce qui n'est pas très poli, sauf si c'est un ennemi, et donc là, comme il commence à y avoir un nombre de followers important, vous aurez la possibilité de faire le ménage, de supprimer un certain nombre de followers sans les bloquer. Voilà. Donc c'est une petite info. Ça va arriver, ça commence à être déployé. Pourquoi pas, c'est pas mal. Hein. Donc c'est une petite façon de contrôler les gens qui vous suivent ou que vous suivez. Voilà. Donc ça, c'était pour les entrées. Alors en plat... C'est un sujet improvisé, mais on voulait en parler parce qu'on en a discuté dans un i5 et puis on n'a pas eu le temps parce que c'était une nouvelle un peu plus compliquée à dérouler en quelques minutes. En fait, il y a eu une info cette semaine comme quoi il y aurait des versions bêta de la conduite autonome de Tesla en France. Et donc, les gens se sont dit, mais quoi ? Il y a des bêtas de conduite autonome chez Tesla ? En France, eh bien oui, il y en a, mais ce n'est pas nouveau, les garçons. Hein. Donc, je crois que c'est MacG qui a sorti l'info. Ce n'est pas nouveau parce que ça existe depuis 2014. En fait, je vous explique en deux mots. Quand vous avez une Tesla, si vous êtes très actif dans les forums et que les gens de Tesla vous remarquent, ils vous proposent, c'est vraiment une proposition de leur part, de participer à un programme qui s'appelle le Early Access, c'est-à-dire qui vous permet de tester des fonctionnalités de la voiture, du système de la voiture, quelques jours avant la sortie de cette version au public. Donc c'est vraiment, on parle de jours ou peut-être d'une ou deux semaines. Mais si vous faites partie du programme Early Access et que vous êtes super actif et que vous envoyez des commentaires et que vous envoyez des suggestions, etc., etc., un jour, vous recevez un message, moi je l'ai dans ma boîte mail, je l'ai gardé, hein, cet historique, de l'équipe bêta qui vous propose de tester des fonctionnalités plusieurs mois, généralement 6 mois avant qu'elles sortent. Et donc, c'est normal que des gens en France testent cette conduite autonome qui s'appelle FSD, qui existe aux États-Unis, mais pareil en bêta, en France, parce qu'ils doivent le tester sur toutes les routes et tous les pays, mais c'est extrêmement strict. D'abord, vous remplissez un contrat qui fait plein de pages. Ensuite, vous êtes super monitoré. Et ensuite, ce n'est pas pour faire l'idiot avec, puisque si vous lâchez le volant plus de 10 secondes, vous avez un rappel. Hein. Ils ne prennent pas de risque. Vous ne pouvez pas vous écraser avec une version parce que vous avez toujours les mains sur le volant. Donc, mais c'est intéressant pour tester ces fonctionnalités-là. Et donc, c'est vrai que ça existe en France et ailleurs. Voilà. Et puisqu'on parle de trucs révolutionnaires, je vous propose un dessert surprise. Donc, un petit dessert révolutionnaire. Car figurez-vous que la société Revolut, que vous connaissez peut-être, qui propose des cartes de crédit Internet, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est une banque Internet, comme il peut y avoir Boursorama, etc. Mais qui propose pour les gens qui voyagent, donc les commissions sont extrêmement faibles, mais vraiment sans aucune comparaison avec les autres, puisqu'elles sont au taux interbancaire. Hein, donc, et dans certains cas, ils proposent du cashback, c'est-à-dire que vous achetez par exemple un produit Apple, vous avez 3% de cashback sur votre compte. Hein, donc ça fait une remise tout de suite. Hein, donc, et sur d'autres produits, ça peut être de 10%, etc. Donc ils ont un énorme succès. C'est une start-up, ils sont en Angleterre. Ils viennent de faire une valorisation. C'est une boîte qui a quelques années, ils sont passés à plusieurs milliards hein, maintenant de valorisation boursière. Donc ça marche super bien. Et là, ils sont dans le monde de la carte de crédit. Vous faites un compte simplement en une seconde. Hein. Vous tapez votre numéro de téléphone sur un site et vous avez votre compte. Hein. C'est juste incroyablement facile. Et ensuite, tout se passe par une app qui est géniale. C'est ça qui fait la différence. Mais là, ils ont décidé, c'est pour ça que je dis qu'ils font leur révolution, de s'attaquer à des domaines qui sortent de la carte de crédit. Et ils vont proposer prochainement un service qui est un concurrent d'Airbnb, mais où vous pouvez donc réserver des logements, mais eux se basent sur le principe de qu'est-ce que vous voulez, un logement basique pas cher, un logement moyen, un logement de luxe. Et en fonction de votre profil, etc., vous allez pouvoir sélectionner des trucs qu'ils sélectionnent pour vous spécialement. Et il est question que vous puissiez faire juste après la même chose sur les billets d'avion. C'est-à-dire que s'ils se lancent sur les logements et les billets d'avion, c'est qu'ils ont l'intention de concurrencer plein de monde assez rapidement, et le tout à partir de leur appli, qui pour l'instant, moi j'en ai testé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est de loin la plus conviviale comme appli bancaire que je connaisse. Donc le seul inconvénient, mais ce n'en est pas un, c'est que comme c'est une banque qui est située à l'étranger, vous êtes obligé de cocher dans votre déclaration d'impôt « je possède un compte à l'étranger ». Désolé, c'est comme ça, il faut le faire. Mais bon, ce n'est pas pour autant que le fisc va vous poursuivre, puisque eux, ils communiquent les informations au gouvernement français comme toutes les banques dignes de ce nom. Voilà.
Merci Elie pour cet excellent dîner. Je te propose qu'on prenne un petit café, vraiment rapide, hein. On a 2-3 secondes et on se retrouve pour nos coups de cœur de la semaine. Nos coups de cœur de la semaine, on va commencer par toi Gilles. On reste dans le domaine de la photo finalement.
Oui, le petit dernier de chez DJ, le 5e version de son stabilisateur. Qui désormais l'OM5 et qui accepte l'iPhone avec une housse de protection, ce qui fait qu'on est plus sûr si jamais on craint de les faire tomber. Et on parlait de selfie pour devant les étoiles. Et justement, il y a une tige d'extension intégrée et le mix stabilisateur plus tige d'extension, on va pouvoir se faire plaisir au milieu de nulle part. Le design est revu un petit peu à l'économie, à la baisse, pour avoir un meilleur encombrement. Le prix est à peu près le même que la version précédente. C'est 159€. Il sera disponible le 19 septembre sur le site. Et Les approvisionnements sont un petit peu contraints. Un seul produit par personne, par commande.
Merci Gilles pour ce coup de cœur. François, à toi.
J'aurais pu dire la Tesla que j'ai eu l'honneur et l'avantage de tester ce week-end, mais je vais rester dans le domaine des voitures. Et mon petit coup de cœur, un cocorico pour une fois, je ne sais pas si vous avez vu, Renault a présenté la nouvelle Mégane électrique, la Mégane e-tech, et je trouve qu'elle est particulièrement réussie, et j'ai hâte de pouvoir aller la voir en boutique, parce que l'écran, ils ont pris un parti pris d'un écran en L inversé, qui a l'air plutôt sympa. Les premiers retours de la presse auto sont plutôt positifs, donc j'ai hâte de pouvoir la tester. Et c'est vrai que je pense que ma prochaine voiture sera électrique, donc j'attends de voir un peu ce qu'ils proposent. Pourquoi pas ne pas faire comme tout le monde et ne pas prendre une Tesla et plutôt prendre une Mégane électrique après tout. Pourquoi pas.
Pourquoi pas. Élie, ton coup de cœur.
Alors, très rapidement, c'est un petit logiciel que j'ai découvert chez nos amis de MacG et que j'ai testé. Donc, on pourra faire un test un peu plus complet une autre fois. Il s'appelle Monitor Control. Et en fait, ça résout un problème qu'on a tous, qui est quand on veut régler un moniteur, qu'on a un moniteur externe, on ouvre tableau de bord, on va sur moniteur, et puis après, les trucs se baladent d'un écran à l'autre. On ne sait jamais où est le réglage. C'est compliqué. Et là, ils ont fait un truc qui est super simple. Ça s'installe en une seconde, c'est gratuit. Et vous pouvez contrôler vos moniteurs externes et vous pouvez régler la luminosité, le contraste, soit de tous en même temps, soit de un en particulier. C'est vraiment ultra simple, gratuit. Donc je vous conseille de le télécharger, de le tester. Monitor Control 3.0.
Super. Et moi, mon coup de cœur, c'est Don't Look Up, Déni Cosmique. En français, c'est la nouvelle super production Netflix. Alors, c'est une histoire déjà vue, celle d'une comète qui fonce sur la Terre. Ça vous rappellera peut-être Armageddon avec Bruce Willis ou même Clint Eastwood dans Space Cowboys. Mais là, le casting est vraiment fou. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Cate Blanchett, Meryl Streep en présidente des États-Unis. C'est réalisé par Adam McKay, à qui on doit déjà The Big Short et Vice, sorti le 24 décembre. Et événement, c'est un film Netflix, mais qui sera aussi visible dans certaines salles. On n'en sait pas plus pour l'instant. La bande-annonce est arrivée mercredi. Je vous conseille d'y jeter un œil, c'est très sympa, apparemment. Chez nous, on appelle ça la ligne droite des stands, la keynote en bout de ligne droite, une accélération de dingue, une semaine de folie aussi à venir, puisqu'on vous retrouve demain, lundi et mardi avec 3 épisodes d'i5 qui seront très largement consacrés bien sûr aux dernières indiscrétions sur ce qui sera dévoilé mardi soir lors de la keynote. i5, une dose Apple par jour, le premier podcast quotidien sur l'actualité Apple, 5 minutes par jour, 5 jours par semaine, c'est nouveau, c'est unique, c'est addictif, paraît-il, mais dans le bon sens du terme. C'est en libre accès cette semaine pour que vous puissiez l'essayer. Et c'est exclusivement sur Apple Podcasts, plus de 20 épisodes par mois pour 3,99€ seulement, sans engagement et avec 3 jours d'essai gratuit. Profitez-en et essayez i5, la dose Apple sur Apple Podcasts. Merci à tous pour votre fidélité. Vous êtes sur Twitter? Eh bien, parlez de nous. Retweetez nos infos et nos liens pour le live de mardi soir, iWeek.news, c'est là qu'on va tous se retrouver pour suivre cette première keynote de rentrée en direct. Les amis, on peut commencer à faire des nuits correctes, ce qui va nous falloir plein d'énergie.
On sera prêt.
en espérant qu'il fasse moins chaud.
Oui, c'est ça. Pas sûr.
Sur le pont.
Cet épisode 55 est également à voir à partir de ce vendredi sur la chaîne YouTube d'iWeek. Comme pour le podcast, abonnez-vous et cliquez sur la cloche sur YouTube pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est en ligne. On reste à votre écoute sur Twitter avec le hashtag iWeekLSA et le hashtag iWeekLive qui est spécifique à la keynote de mardi. Pour nous suivre, 2 comptes Twitter, @iWeekNews et @i5FR. Voilà, vous savez tout. À demain midi pour i5, à mardi soir pour iWeek Live et à jeudi prochain pour le débrief intégral de la keynote. Ce sera dans l'épisode 56 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Bonne fin de semaine à tous, bon week-end et donc à mardi 18h30. Bye!
Bye! Bye.